Les CAO, c'est les centres d'accueil et d'orientation qui sont des lieux de mise à l'abri inconditionnelle et sur la base du volontariat des exilés qui sont sur le camp de Calais et un petit peu après sur le camp de Grande-Synthe. Au début, ils étaient aussi appelés les centres de répit. Actuellement, donc dernier chiffre en date, il y aurait 109 CAO en France qui ont accueilli donc 2900 personnes. Donc en fait, c'est des bâtiments qui sont inoccupés un peu partout en France, qui sont réquisitionnés entre guillemets par les préfectures de chaque département et qui sont destinés à héberger des exilés en provenance de Calais. Ensuite, ces bâtiments sont gérés par une association qui devient gestionnaire du CAO, qui est plus ou moins sur la base du volontariat selon les CAO. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place en novembre par une circulaire du 9 novembre qui était au début assez floue et qui indiquait l'ouverture de ces CAO pour un mois pour les personnes qui venaient de Calais. Ensuite, au mois de décembre, il y a eu une note du ministère qui venait un peu plus préciser le fonctionnement de ces établissements, en sachant que c'est toujours aussi flou. Et en fait, c'est ça le plus gros problème des CAO, c'est que c'est un dispositif qui est très opaque. C'est très difficile d'avoir de l'information sur le fonctionnement et l'encadrement juridique et l'objectif du gouvernement, à la fois pour les associations gestionnaires de ces CAO, pour les associations de Calais et donc pour les exilés qui sont invités à y aller. Comment ça marche plus concrètement? En novembre, le gouvernement a mis en place avec l'OFI, donc l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la DDCS et la préfecture du Nord, et certaines associations. Donc il y avait par exemple SOS Solidarité, La Vie Active, qui est donc l'association qui gère la plateforme d'accueil de jour et les containers, et plus récemment Adoma, qui font des maraudes dans le bidonville de Calais deux fois par semaine, en expliquant aux exilés qu'ils peuvent aller se reposer. Donc l'idée, comment c'est écrit dans la circulaire, c'est qu'ils peuvent aller en répit pendant un mois, et voire plus, et faire le point sur leur projet migratoire. Donc ces associations font des maraudes deux fois par semaine. Donc il y a deux départs de bus par semaine de Calais. Là, plus récemment, la semaine dernière, suite à l'annonce de la destruction de la zone sud, il y avait des départs tous les jours. Et les exilés volontaires s'inscrivent sur cette liste et disent « Ok, je veux partir ». Sachant qu'au début, même les personnes qui faisaient les maraudes, c'est-à-dire l'OFI, n'étaient pas en mesure de dire aux exilés où est-ce qu'ils partaient. Donc ils leur demandaient « Est-ce que tu veux aller dormir au chaud dans un endroit quelque part en France, mais on ne sait pas où ?» Donc petit à petit, maintenant, ils ont l'information assez en amont. En parallèle de ça, il y a une réunion CAO tous les mercredis au centre Jules Ferry avec donc les autorités, l'OFI, la DDCS, la préfecture, les associations qui font les maraudes et la plupart des associations calaisiennes, mais pas toutes, puisque par exemple la plateforme de services aux migrants, la juriste était présente à une des réunions et on lui a demandé de sortir sous prétexte que c'était pas sa place d'être là. Donc là aussi, on voit que l'accès à l'information et le regard citoyen est quand même assez tenu à l'écart de la part des autorités. Et donc, il y a plusieurs aspects qui peuvent poser question. Dans un premier temps, la durée de vie de ces CAO, puisque dans la première dans la première circulaire du 9 novembre, c'était indiqué que la mise à l'abri était proposée pour un mois seulement. Donc après, quid de qu'est-ce qui se passe après un mois? Là, depuis ça, c'est un petit peu... même les associations gestionnaires elles-mêmes, il y en a beaucoup qui ne savent pas jusqu'à quand elles sont en charge du CAO. Il y a des CAO qui ont déjà fermé. Il y en a qui sont prévus pour fermer à la fin de la trêve hivernale. Donc ça, c'est un des grands flous. Là, récemment, la préfecture et le gouvernement ont annoncé que les CAO resteraient ouverts le temps nécessaire, notamment pour les personnes qui sont soumises au règlement Dublin, c'est-à-dire qu'on a pris leurs empreintes digitales dans le premier pays européen dans lequel elles sont arrivées, et donc c'est ce pays-là qui est responsable de leur demande d'asile. Et en théorie, après 6 mois, si jamais le renvoi dans ce pays-là n'a pas été fait, la France redevient compétente pour la demande d'asile. Donc là, le gouvernement a annoncé que les CAO resteraient ouverts les 6 mois nécessaires pour que les personnes qui normalement devraient être envoyées dans un autre pays européen pour demander l'asile, puissent la déposer en France, puissent déposer leur demande d'asile en France. Mais encore une fois, il n'y a rien de... Il n'y a pas d'engagement de la part du gouvernement. C'est des choses qui sont annoncées lors de ces réunions ou en officieux. Un autre point qui peut aussi être un dysfonctionnement selon les CAO, c'est les associations qui sont gestionnaires de ces CAO. Elles ne sont pas toutes spécialisées, on va dire, dans les personnes, dans le public migrant qui aurait vocation à demander l'asile. Donc il y a certains CAO qui sont gérés par des associations qui sont normalement, qui viennent en soutien aux personnes en situation de handicap. Donc après, ça pose toutes les questions de l'accompagnement social et juridique qui normalement va avec l'accueil des personnes. Par exemple, et du coup, il y a, aussi le lien entre les CAO et les autorités. Il y a par exemple des CAO où c'est la préfecture qui vient dans le CAO faire de l'information sur le droit d'asile et éventuellement aider les personnes à remplir leur demande d'asile. Il y a aussi, sur les conditions d'accueil et d'hébergement, il y a eu beaucoup d'exemples, et notamment vous l'avez dans le document avec l'enquête de la FNARS, beaucoup d'exemples de CAO où il y a eu... l'arrivée des exilés a été très chaotique, c'est-à-dire que l'association qui était censée les accueillir ne savait pas combien de personnes arrivaient, à quelle heure elles arrivaient, etc. Donc, c'était pas prévu correctement. Ça a été des bénévoles qui sont venus pallier le manque du gouvernement pour apporter de la nourriture, etc. Et dans certains CAO, c'est encore le cas où ce sont des bénévoles ou bien la Croix-Rouge et le Secours Populaire qui assurent la distribution de nourriture. Et dans certains cas, l'accompagnement juridique, comme avec l'exemple du CAO de Mozac, dont Jean-Pierre vous parlera, où c'est vraiment des bénévoles qui remplissent le rôle que normalement devrait assurer l'association qui gère le CAO. Les autres questions des CAO, en fait, globalement, c'est vraiment le manque d'informations pour les associations qui gèrent les CAO et donc pour les exilés qui se retrouvent là-bas et qui ne savent pas jusqu'à quand ils peuvent être hébergés, dans quelles conditions, etc. Là, récemment, avec la destruction du bidonville, les maraudeurs, donc les associations avec l'OFI et la DDCS, ont fortement encouragé les mineurs isolés étrangers à aller dans ces CAO comme lieu de mise à l'abri, sans que personne puisse vérifier qu'une fois qu'ils sont dans ces centres, l'accompagnement qui normalement leur est nécessaire leur soit procuré. Vu que c'est sur la base du volontariat, y compris les personnes qui ont déjà entamé une demande d'asile à Calais, sont fortement invitées, voire même reçoivent une certaine pression, par exemple, de la part de l'OFI, pour aller dans ces CAO, en attendant normalement d'être orientées dans un CADA, donc un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. Il y a, par exemple, certains exilés qui ont raconté que l'OFI et la plateforme d'accueil des demandeurs... L'OFI, pas la PADA, leur auraient dit que s'ils voulaient bénéficier de leur allocation de demandeurs d'asile, ils étaient obligés d'accepter l'hébergement dans les CAO, au lieu d'attendre un CADA, un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Une autre grosse question juridique, c'est donc ça concerne aussi les personnes sous le règlement Dublin, qui normalement doivent donc être renvoyées dans un autre pays européen pour déposer leur demande d'asile. Il y a eu dans la note du 7 décembre, il est bien écrit qu'aucune mesure coercitive devait être mise en œuvre au sein des CAO. Et donc on a observé dans plusieurs endroits. Les personnes qui sont dublinées, qui ont été sorties du CAO, placées à l'hôtel et assignées à résidence par la préfecture pour mettre en œuvre les démarches de réadmission dans le pays européen compétent. Donc par exemple, à Toulouse, il y a eu 3 personnes. Là, il y a eu un avocat qui a été saisi, qui a été au tribunal administratif, et finalement, les assignations à résidence ont été annulées. Dans le Loiret, il y a eu 2 personnes assignées à résidence qui ont été ensuite en centre de rétention administrative. Et moi, personnellement, j'ai pas de nouvelles, savoir ce qui s'est passé. Et à Nantes, il y a une personne qui a été assignée à résidence, qui n'a même pas eu le temps de passer en centre de rétention et qui a été renvoyée directement en Italie, du coup, pays où elle avait déposé ses empreintes et où donc c'était l'Italie qui était compétente. Et tout ça, c'est des choses qu'on a su parce qu'il y a un réseau et parce que soit l'association qui gère le CAO soit un collectif de militants a contacté un avocat qui a fait remonter l'information à Calais et aux associations nationales et calaisiennes qui s'y intéressent. Mais ça veut bien dire que si il n'y avait pas ce regard citoyen et ces réseaux, ça serait des choses qui seraient faites en catimini et personne ne le saurait jamais. Donc voilà tout l'enjeu des CAO. Et un des gros problèmes aussi dont on s'est rendu compte récemment, c'est les personnes qui sont en CAO et qui en repartent, puisque c'est sur la base du volontariat, donc la personne peut repartir du CAO quand elle en a envie. Il y a des cas de gens qui ont entamé des démarches de demande d'asile dans les CAO, qui finalement en sont repartis et sont revenus à Calais pour une raison qui leur est propre. Et quand ils reviennent à Calais et qu'ils vont à la PADA pour poursuivre leur démarche de demande d'asile, la PADA n'a pas le droit de les redomicilier. Et donc la préfecture de Calais ne veut pas redevenir compétente pour traiter sa demande d'asile. Donc là-dessus, c'est encore un petit peu flou et on essaye de voir vraiment comment ça se passe. Mais ça témoigne bien de la volonté du gouvernement qui a dit que les CAO étaient pour mettre les gens à l'abri et qu'ils puissent vivre dans des conditions à peu près dignes. Mais c'est surtout de vider Calais et, comme il l'écrit dans, je crois que c'est la note du 7 décembre, de maîtriser l'installation des exilés sur la fameuse lande. Et pour la petite anecdote, quand les personnes se sont inscrites donc pour prendre le bus tel jour, elles doivent se rendre là où le bus part. Et donc, il y a des gens de l'OFI qui gèrent... telle personne va dans tel CAO, donc elle monte dans tel bus. Et le discours d'une personne de l'OFI, c'était vraiment un exilé qui était un peu inquiet et qui, du coup, posait des questions de savoir comment est le logement, est-ce que je vais partager ma chambre, est-ce que je vais partager ma cuisine, etc. Et la personne de l'OFI lui a bien dit, après lui avoir expliqué tout ça, surtout, en aucun cas, vous ne revenez à Calais. Vous ne revenez jamais, jamais à Calais. Donc c'est vraiment l'idée de vider Calais. Et bah, encore une fois, comme on disait, de rendre invisibles toutes ces questions-là et toutes ces personnes. Voilà. Après, il y a des exemples un peu plus concrets des dysfonctionnements à la fois dans l'accueil, dans les conditions d'accueil, dans l'accompagnement social et juridique. Et avec l'exemple, justement, du CAO de Mozac, dont Jean-Pierre va nous parler.